Résumons. Nous sommes à la fin du, pratiquement à la fin du chapitre 3. Et on essaie d'expliquer l'idée suivante. Comment, d'un côté, nous avons une autonomie. On sent qu'on a une autonomie. C'est-à-dire qu'on a une forme d'indépendance. Et de l'autre, nous avons la Emouna que on n'existe pas en vérité. En vérité, on est comme, on est complètement annulé devant un Kadosh Baruch Hu.
45.
Alors, pour illustrer ça, Admor HaZaken nous a expliqué que tout est une question d'approche. Que parfois, ce qu'on voit avec nos yeux n'est pas forcément ce qui est la situation qui se passe. Ça, on l'a développé ça longuement. Alors, je voudrais illustrer cette idée avec Rosh Hashanah. Parce que ça, on n'a pas parlé de Rosh Hashanah cette dernière, c'était pas encore Rosh Hashanah. Là, on s'approche de Rosh Hashanah. Donc, je vais illustrer cette idée avec Rosh Hashanah. Et après, on va rentrer dans les mots. On va terminer le chapitre 3, on va passer au chapitre 4. Rosh Hashanah, c'est quoi Rosh Hashanah?
La tête de l'année.
Alors, c'est la tête de l'année. C'est bien, une bonne traduction. Parce que beaucoup de gens traduisent Rosh Hashanah par Nouvel An.
Oui, c'est Nouvel An aussi, c'est pareil.
Ce qui est une fausse traduction. Parce que le Nouvel An, d'accord, c'est Yom Hashanah. C'est pas Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est même pas le jour de l'an. Il y en a qui vont dire c'est le jour de l'an. Non. La traduction de Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année. Pourquoi c'est important de préciser ça? Parce que Rosh Hashanah n'est pas seulement la fête dans laquelle on va marquer le début de la nouvelle année. C'est beaucoup plus que ça. C'est la tête de la nouvelle année, dans le sens que tout ce qui va se passer en 5780 va être décidé
le jour
dimanche soir, dans la nuit de dimanche à lundi. C'est là que tout se passe.
Dans la nuit de dimanche à lundi.
Dans la nuit dimanche à lundi. Et ça va se finaliser lorsqu'on va sonner le shofar lundi matin. Maintenant, je vais expliquer un petit peu ce que ça veut dire. A priori, nous, quand on voit avec nos yeux, on ne voit pas de différence dans le monde entre dimanche, dimanche après-midi, dimanche soir, lundi matin, lundi après-midi. Le monde a l'air de tourner de la même façon. Ça veut dire qu'une personne qui ne fréquente pas les synagogues, ou une personne carrément qui n'est pas juif, qui écouterait les infos, etc., il n'y a pas d'événement majeur qui s'est passé.
Et c'est rien passé. Hein.
Donc ça veut dire que nos yeux n'ont rien vu de particulier. Alors comment la Torah peut-elle affirmer que Rosh Hashanah, c'est un bouleversement, c'est le monde qui change, c'est une nouvelle vitalité, c'est une nouvelle énergie, bonsoir, c'est une nouvelle énergie. J'ai envie de dire, c'est faux. C'est faux, je ne le vois pas avec mes yeux. Donc si je ne le vois pas avec mes yeux, c'est qu'il n'est pas là. Tu peux pas. Et je vous donne un exemple. C'est comme si par exemple, je suis en train de te dire, tu vois le verre qu'il y a devant moi, c'est un nouveau verre. Il y a une heure, c'est un autre verre, c'est un nouveau verre. On l'a tout refait. Refonte complète. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Ce verre, c'est le même verre qui était là il y a une heure. On a un peu l'impression que c'est la même chose. Ça veut dire que, à la limite, que tu me dises qu'à Rosh Hashanah, Dieu va juger l'humanité.
Oui,
et qu'il va décider qui aura quoi. Ça ne me dérange pas. Parce que c'est un jugement sur une année.
C'est-à-dire
Dieu va être... Non, justement, c'est ce que je viens de dire. C'est pour ça que je vais m'arrêter dessus longuement. On va s'arrêter longuement dans ce gros jour aujourd'hui. Rosh Hashanah n'est pas seulement le jour de l'an. Rosh Hashanah n'est pas seulement le jour du jugement, dans lequel Dieu juge ce qui va se passer plus tard. Rosh Hashanah est le jour où l'énergie, en soi, et la vitalité du monde entier est renouvelée. Et j'ai expliqué ce que je veux dire. Ça va tellement loin, que... Il y a une question qui est posée dans les textes de Chassidut, à savoir, si tu me dis qu'à Rosh Hashanah, on fait un reset, ça veut dire qu'on passe sur une nouvelle base, à tel point qu'à l'entrée de Rosh Hashanah, l'énergie de l'année précédente est coupée, et qu'elle n'est renouvelée que le lendemain, au moment de la sonnerie du shofar. Alors la question est posée, comment le monde tient entre l'entrée de Rosh Hashanah et le moment où on sonne le shofar? Je vais être concret. Là, cette année, Rosh Hashanah tombe dimanche soir. Ok? On va sonner le shofar à quelle heure? Lundi matin. Enfin, 11h30? 11h15, 11h30? Ok. Rosh Hashanah va tomber à quelle heure? Va rentrer à quelle heure le dimanche soir?
19h17.
D'accord? Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a pratiquement 19h17 à 11h. On a combien de temps? Ça fait de 7h à 11h, ça fait combien de temps? Combien d'heures?
Ça fait 16h.
Ça fait 16h. C'est-à-dire que pendant 16h, comment le monde fonctionne? Puisque le Zohar te dit que dès que Rosh Hashanah entre, Dieu coupe l'énergie de l'année précédente et il dit maintenant il faut tout recommencer. Alors s'il a coupé l'énergie, comment on tient? Comment le monde vit?
Un peu d'énergie dans les piles.
Alors qu'est-ce qu'il répond à Chassidou? Chassidou te dit, il reste ce qu'on appelle le Réchimou. Réchim ou c'est reste une trace. Reste un petit fond. C'est comme, je vais donner cet exemple avec une prise de courant. C'est comme une prise de courant. Quand tu as débranché la prise de courant, l'appareil ne s'éteint pas tout de suite.
C'est la force d'énergie.
C'est plus que la force d'énergie. Il reste encore un petit peu d'énergie dans le fil. Maintenant, cette énergie, elle dure combien de temps? Alors, dans une prise, elle va durer une seconde.
La force d'énergie.
Maintenant, oui. Donc, maintenant, pour Akadosh Baruch Hu, cette énergie va durer quelques heures. Mais que quelques heures. Au-delà de ces quelques heures, qu'est-ce qui se passe? Tout s'éteint. Et donc, tout le monde entier attend, la nature attend, d'accord? Elle retient son souffle. Les Juifs vont-ils sonner le shofar? Parce que nous, on ne le sent pas que la nature cesse d'exister. Mais la nature sent que, elle est sous, vous savez, c'est un peu comme un plongeur. Il plonge, il fait la plongée, il respire encore pendant 5-6 minutes, mais il sait que son temps est compté. Il sait qu'il n'y a pas de source extérieure, c'est-à-dire qu'il doit se débrouiller avec les souffles qu'il a et c'est fini. La nature sent ça. Donc la nature attend. Les Juifs vont-ils sonner le shofar? Et lorsqu'on sonne le shofar, là il y a un coup de souffle, Hachem relance l'énergie pour l'année entière. C'est ce qui se passe dans les coulisses. C'est-à-dire que le shofar n'est pas juste un coup de trompette. Rosh Hashanah n'est pas que le jour de l'an. C'est pas seulement un jour où on mange de la pomme et du miel et des trucs comme ça, d'accord? Ce qui est important, on va développer après pourquoi, mais Rosh Hashanah, c'est le jour où Hachem renouvelle l'énergie du monde entier.
Un nouveau contrat.
Mais quand ils sont au...
Alors non, c'est même plus qu'un nouveau contrat. Encore une fois, c'est, je dis bien, renouveler l'énergie du monde entier. Parce que quand vous renouvelez le contrat, comment on appelle ça? Tous ceux qui participent à ce contrat sont déjà là. Seulement, on va renouveler le contrat, mais les protagonistes de ce contrat et tous ceux qui participent, les acteurs de ce contrat sont toujours là. Là, Akadosh Baruch renouvelle tout. C'est-à-dire qu'à Rosh Hashanah, c'est un renouveau complet. C'est vraiment un ridouche, ça. Et ça veut dire que le monde entier dépend de nous. Pas que l'âme Israël. Rosh Hashanah n'est pas que le jour du jugement des Bnei Israël. Rosh Hashanah est le jour du jugement du monde entier. L'énergie du monde entier, de tout l'univers, est renouvelée à Rosh Hashanah. Alors, on est jugé dimanche soir, et ça se passe concrètement au son du shofar. Et après, il y a des couches. T'as le shofar, après t'as le moussaf de Rosh Hashanah. Ça veut dire qu'on change le monde quand on fait ça.
Oui, mais le shofar, il sonne en Australie, il sonne pas la même chose qu'ici.
C'est une très bonne question. Je vais retourner la question. Dans ce cas-là, pour Dieu, quand c'est Shabbat? C'est quand Shabbat?
Parce que
quand c'est Shabbat en Australie, chez nous c'est vendredi. Alors pour Dieu, c'est quand Shabbat? C'est une bonne question.
Chaque nuit, Dieu ne met pas un son lui-même?
Question rejetée, votre honneur. Non, c'est une bonne question.
Bonne question.
Mais pas aujourd'hui. C'est un autre sujet.
Est-ce que Dieu émet aussi un son, lui, là-haut?
Non. Dieu lui-même attend que les Juifs sonnent le shofar.
Donc, il
et tant qu'on n'a pas sonné le shofar, ça ne fonctionne pas. Juste pour vous, je vais vous raconter une histoire pour illustrer ça, à quel point le moment où on sonne le shofar, c'est très important. Lorsque Napoléon était en guerre contre la Russie, vous savez que Napoléon, vous toujours prenez la démocratie, etc. Alors que le tsar, lui, il était contre ça. Lui, il était au contraire, il était pour opprimer les gens et pour faire souffrir les gens. Donc il y avait une grande discussion chez les Juifs, dans le monde juif. Lequel est préférable pour les Juifs? Alors vous me direz, les deux sont mauvais, mais bon, parce que les deux ont été mauvais concrètement.
Entre quoi et quoi?
Entre Napoléon et le tsar. Alors Napoléon, certains disaient,
c'est mieux, Napoléon.
Napoléon est mieux,
oui.
Parce que non, Napoléon va lui donner la liberté.
Ouais.
Alors, c'est vrai que Napoléon avait une volonté qui était claire d'assimiler. C'est clair, il a dit clairement. Tout ce qu'il a fait, le Sanhédrin qu'il voulait faire, tout ce qu'il voulait faire, c'était pour assimiler le peuple. Le consistoire qu'il a fait, bon, le consistoire d'aujourd'hui, grâce à Dieu, est beaucoup mieux. Mais tout ce qu'il a fait, c'était pour l'objectif d'assimiler le peuple juif. Donc il y avait des rabbins qui disaient, c'est vrai que Napoléon veut nous assimiler, mais d'un autre côté, il veut nous donner la liberté. On va pas croupir en prison, on va pas croupir en exil. Donc c'est bien. Déjà, prenons la liberté, après on se débrouillera. D'autres disaient, non. Ils disaient, on a vu dans l'histoire du peuple juif, que lorsque le peuple juif, en exil, avait trop d'opulence, avait trop de liberté, ça s'est mal passé, il s'est assimilé et il s'est perdu. Donc, à choisir entre les deux, on préfère rester avec le tsar. Parce que le tsar, il nous fera souffrir physiquement. Mais on a vu dans le peuple juif que quand les juifs souffrent physiquement, ils se rapprochent de Dieu. Donc c'est peut-être mieux. Donc c'est un vrai débat. Un vrai débat spirituel. À savoir, est-ce qu'il faut préférer l'aisance physique, mais l'assimilation? Ou est-ce qu'il faut préférer la souffrance physique et rester attaché à Kadosh Baruch
Hu? Aujourd'hui, tu
donc,
dis ça.
Il y avait deux grands courants.
Un psychiatre, il te prend pour un débile. Hein.
Pourquoi?
Franchement, je préfère souffrir.
Benita, vous avez le choix pour votre enfant. Pas le vôtre, l'enfant tartempion.
Oui.
Deux options. ou vous lui donnez de l'argent, mais vous crachez dessus, ou vous lui donnez pas de l'argent et vous respectez. Qu'est-ce que vous choisissez?
Ah ben là, non. Le...
Ah ben c'est voilà. Pas, c'est pas... la même chose.
Non.
C'est la même chose.
Non, là, c'est, ah, la,
c'est, quoi, alors
c'est la liberté contre le...
Non,
le...
c'est pas parce que vous utilisez des mots que vous avez utilisés. Mais l'idée est la même. Soit tu lui donnes la liberté et il te crache dessus, soit tu le sers et il te respecte. Qu'est-ce que tu fais?
Tu le sers.
Le père, il a envie des deux. Le père, il a envie que son fils ait la liberté et qu'il le respecte. Mais des fois, on peut pas avoir les deux. Alors, qu'est-ce qu'on fait à choisir entre les deux? Alors, il y avait deux grands courants dans le judaïsme en Russie à cette époque-là. Il y avait Rabbi Aharon de Karlin et l'Admor HaZaken. Rabbi Aharon de Karlin était de l'avis qu'il fallait tout faire pour que Napoléon gagne. Parce que si Napoléon prend le contrôle de la Russie, il va donner la liberté aux Juifs. Au moins, les Juifs vont commencer à souffler un peu parce qu'ils souffraient trop. Il y avait des problèmes, les Cosaques et tous ces problèmes-là. Ils n'en pouvaient plus. Donc, Rabbi Aharon de Karlin, il a dit, donnons d'abord la liberté aux Juifs, après on verra. L'Admor HaZaken a dit non, le moment n'est pas encore arrivé. Maintenant, si on met Napoléon, il va nous détruire spirituellement. Et détruire un Juif spirituellement, c'est
pire,
plus grave.
C'est, pire,
c'est plus grave que le détruire physiquement. Donc l'Admor HaZaken était de l'avis qu'il faut que c'est le tsar qui gagne. Alors, il appelait pas Napoléon, il appelait Bête-Pé. Bête-Pé, c'est Bonaparte. Il voulait pas dire son nom. Même dire son nom, il voulait pas. Parce que vous savez, quand on dit le nom de quelqu'un, on lui donne l'énergie. Donc il appelait Bête-Pé. Bête-Pé, c'est Bonaparte. D'accord? Il dit, im bet pe yenatzer, si bet pe va gagner, pas bp, la pompe à essence,
oui,
si bp va gagner, alors les juifs, ils iront bien physiquement, mais ils iront mal spirituellement. Et si le Kessar, il va gagner, Kessar c'est le tsar, c'est monsieur Langage de la musique, si le Kessar, il va gagner, alors les juifs iront mal matériellement, mais spirituellement, ils resteront attachés. Donc, grande discussion, et c'est une discussion qui a partagé le peuple juif. Ça veut dire, finalement, on prie pour quoi? On prie pour la victoire du tsar, ou on prie pour la victoire de Napoléon? C'est une guerre qui était très très difficile.
Mais dans la liberté, je peux pratiquer ma religion, alors que dans la dictature, je peux pas.
Oui,
la
bien
pratiquer.
Sûr, je peux. Mais dans les faits, la liberté que proposait
Napoléon,
c'était l'assimilation.
Et c'est la mort.
Et Napoléon a changé le monde. Jusqu'aujourd'hui encore, il y a des choses bien, des choses pas bien. Napoléon a changé le cours du monde jusqu'aujourd'hui. Toute la démocratie, toutes les idées qu'on a aujourd'hui, c'est Napoléon.
Oui, le code aussi. Le code
il a tout changé. Il a changé. Quand l'Admor HaZaken parle de Napoléon, de Bonaparte, il ne parle pas que de Napoléon. Il parle de Napoléon et de tout le courant. C'est-à-dire que la révolution française, elle a un impact jusqu'aujourd'hui. On est en pleine révolution, dans le monde entier, cette révolution.
Oui, mais regardez, il y a quelques années en Russie, on allait clandestinement
très bien.
Emmener les livres.
Alors, c'était la discussion.
Alors qu'en Occident, ben,
on
pouvait pratiquer librement.
Ça se discute.
Alors, finalement, ce sont ceux qui étaient dans l'Occident qui allaient porter secours à ceux qui étaient derrière leur rideau de fer.
Regardez ce qui s'est passé avec les Marocains.
On
parle des Marocains, d'accord. Tant qu'ils étaient un petit peu opprimés, ils s'étaient attachés. Dès qu'on leur a donné la liberté, on leur a dit « Fais ce que vous voulez ». Ils sont arrivés en France, qu'est-ce qui s'est passé?
Ah oui, mais là...
Ils sont arrivés chez Napoléon, qu'est-ce qui s'est passé?
Ils étaient confrontés à une autre civilisation.
Tu comprends, ils étaient en... Combien de pourcentage, je prends l'exemple, hein, c'est que j'ai enregistré, mais c'est pas grave, c'est un exemple qui me parle, parce que voilà, c'est concret. Combien de pourcentage de juifs étaient religieux au Maroc, puisque vous êtes devant moi? Au Maroc, d'après vous, combien de juifs étaient chômeurs Shabbat? Combien de pourcentage de juifs étaient chômeurs Shabbat?
80%, non, beaucoup moins. Hein.
Avant que l'Alliance arrive, avant que la France arrive au Maroc, pour venir nous chercher.
Bah bon, je sais pas. Ouais,
la majorité était religieuse.
J'étais trop jeune. Chômeurs
Shabbat.
La majorité, oui.
D'accord? Après, la France est venue, ils nous ont proposé l'ouverture, d'accord, l'émancipation, c'était bien, ils ont dit, les jeunes étaient contents, ils ont dit voilà, la France est venue nous chercher, ils nous ont sauvés, ils nous ont éclairés. Ça s'est terminé comment? Alors c'est vrai, on est là, grâce à Dieu, on vit bien, mais c'est terminé comment? La majorité de ces juifs-là se sont assimilés. Donc vous voyez que c'est un vrai débat idéologique.
Ils
sont assimilés. Après, il y a des niveaux, il y a des degrés dans l'assimilation.
Oui,
un, il va s'assimiler en arrêtant de respecter le Shabbat.
Oui,
l'autre, il va s'assimiler. L'autre va s'assimiler en se mariant avec une Goya. L'autre, il va s'assimiler en se convertissant. Il y a eu malheureusement plusieurs niveaux.
Oui, mais ça, c'est l'évolution de la société et du monde.
Donc, continuons l'histoire. On est dans une histoire. Donc, il y avait un grand débat entre Napoléon, l'Admor HaZaken, les Avdil, et Rabbi Aharon de Karlin, qui doit gagner. Et maintenant, le problème, c'est que les deux, c'est des géants. C'est des grands maîtres. Donc, et les deux, c'est très compliqué. C'est-à-dire, quand tu pries, à quoi tu penses dans ta prière? Tu peux penser. C'est un rabbi, non, c'est un rabbi. Tu peux penser à une chose et son contraire, on sait pas quoi faire. Il y a eu une info dans le ciel. L'info dans le ciel était, parce que la guerre a commencé juste avant Rosh Hashanah, l'info dans le ciel était que, au prochain Rosh Hashanah, qui était quelques jours plus tard, le premier de ces deux rabbis qui allait sonner le shofar, c'est lui qui emportera. Ah.
C'est lui qui
emportera, c'est lui qui va gagner.
Ou Napoléon, bien
sûr. Parce que tout se décide en haut.
Quoi, c'est la cour.
Alors, Rabbi Aharon de Karlin a réveillé ses chassidim très, très tôt, je ne sais pas s'ils ont dormi. Et il leur a dit, il faut qu'on trace, chacharit, ta, pour arriver le plus rapidement possible à la lecture de la Torah. Ils arrivent à la lecture de la Torah, Après, ils arrivent, ils tracent. C'est même pas 5h du matin, ils tracent, ils arrivent au chauffard. Et là, dès qu'il veut sonner le chauffard, il dit, il m'a devancé. Il appelait la Mourazaken. Il appelait la Mourazaken. Bien sûr qu'il savait, c'est des gens qui sont en haut. Il appelait la Mourazaken, le lituanien. Il dit, il m'a dépassé. Qu'est-ce qu'il a fait la Mourazaken? La Mourazaken, il a sonné le chauffard avant la tuile.
On peut le faire?
Bien sûr, on peut, c'est cacher. C'est pas le top, mais c'est cacher. La Mourazaken, pour sauver la situation, il s'est levé le matin, dès qu'il y avait le net, c'est la première lueur possible. Il a sonné le chauffard. Et c'est lui qui a gagné. Et effectivement, on sait ce qui s'est passé après. Le tsar a gagné. Bon, après, techniquement, on peut rentrer dans les détails de la guerre. Parce qu'il faisait trop, l'hiver était trop froid. Et ils ont pas réussi. Ils sont embourbés. Des raisons, on peut en trouver. Napoléon était très fort. Il aurait pu gagner cet hiver. C'est de la technique, ça. Et Napoléon était un très, très grand tacticien. C'est pas un problème pour lui de gagner cette guerre. Il a gagné des guerres beaucoup plus dures que ça. Seulement, Hachem voulait pas qu'il gagne cette guerre. Donc, il a eu une défaite. Qu'est-ce que je vous montre dans cette histoire? On vous parle de grands mouvements dans le monde qui ont bouleversé le monde.
Bien sûr.
C'est clair, c'est que cette guerre est une guerre qui a bouleversé le monde jusqu'à aujourd'hui. Et on est en train de te dire que cette guerre s'est décidée à quel moment? C'est décidé à un coup de chauffard, à un timing de coup de chauffard. Je dis, mais attends, qu'est-ce que tu racontes? C'est-à-dire qu'à la limite, t'as presque honte de raconter ça à un non-juif. Il vient prendre pour info si je raconte ça. Tu dois aller raconter à un prof d'histoire, si vous savez, le combat en fait a été scellé par un coup de chauffard. Mais vous êtes malade, arrêtez vos délires. Ça va, bon. C'est bon, tranquille, arrêtez l'histoire. Non, on a la Emouna. Ça c'est, le combat s'est scellé dans un coup de chauffard. Un timing de coup de chauffard. C'est-à-dire que c'est pas scellé dans un hiver qui était plus heureux qu'un autre ou un coup de taxi. La vraie tactique qui a permis de gagner, c'est quoi? C'est le coup de chauffard qui a été fait en haut avant l'autre. Pourquoi? Parce que nous avons la Emouna, après on va rentrer dans les mots, que les choses se passent d'abord en haut avant de se passer en bas. Ce qui se passe en bas n'est qu'un reflet de ce qui se passe en haut. Donc, en bas, tu vois un combat. En bas, tu vois un combat. Tu vois un Napoléon. Tu vois un tsar qui représente deux énergies complètement différentes. Un dictateur. Tu vois des très très grandes énergies qui concernent des millions de personnes. Des dizaines de millions de personnes. Et en plus, c'est même pas que eux, parce que ces deux-là, ils avaient avec eux un courant qui emportait le monde entier. Donc, en vérité, toute l'humanité était concernée par ce combat. C'était un vrai combat. Et qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, ça, c'est le combat que tu crois voir avec tes yeux. Mais en vérité, ce combat exprime un autre combat qui se passe dans le ciel. Et c'est là-bas que ça se passe. Et les Khamim sont en train de gagner ce combat en haut. Quand on voit ça, on comprend qu'en vérité, on comprend rien du tout. Bon, nous, juste, on essaie d'analyser juste des élections en Israël, on se dit, ah.
Et nous, M. Benito, on gagne quoi dans tout ça?
Ah. Non, ben, c'est-à-dire, il faut
vérifier. Le casino, il gagne toujours.
Être dans un monde tout à fait, il faut vraiment avoir une foi inébranlable pour accepter ça.
Ça nous donne un petit peu, pourquoi je vous raconte cette histoire, parce que ça nous donne une lecture, je termine de seconde la phrase, ça nous donne une lecture complètement différente quand on lit dans notre fila de Rosh Hashanah que dans cette fila est décidé l'avenir du monde. Tu dis, là on commence à comprendre un peu mieux, parce que tu dis, mais attends, mais qu'est-ce qu'il raconte? Non seulement ils ont pris leur avenir de l'année, ils ont pris l'avenir du peuple, ils prennent l'avenir du pays, ils prennent l'avenir de l'univers maintenant. Tu vois, c'est tout l'univers qui dépend de ma prière. Je dis, attends, pourquoi tu te prends pour faire dépendre l'avenir de l'univers de ta prière? Quand ta prière n'était pas terrible, tu dis, ah, ma prière n'était pas terrible, l'avenir du monde ne sera pas terrible. C'est quoi ce délire? C'est pas un délire, c'est la vérité. C'est que Akadosh Baruch Hu, il coupe les vannes à l'entrée de Rosh Hashanah. Après, il faut tout renouveler à zéro. Et c'est là qu'Hachem décide qui aura, qui aura pas. Qu'est-ce que je vous montrais avec cette histoire? Je vous montrais que les choses ne sont pas forcément ce qu'elles ont l'air. Même si toi, quand tu as l'impression que tu crois qu'il y a un monde, et qu'il y a un tsar, et qu'il y a un Napoléon, et que les choses se passent comme ça, il y a des coulisses. Et des fois, les coulisses racontent un message complètement différent. De la même façon, quand nous, on revient à notre cours par rapport à Kadosh Baruch Hu. Quand tu vois le monde, quand tu vois l'énergie, tu dis, devant moi, j'ai un verre. J'ai pas de l'énergie, j'ai un verre. Devant moi, j'ai une table. Devant moi, j'ai un livre. Devant moi, j'ai un monsieur Benita. J'ai de la chair. Bon, j'ai des choses concrètes. Non, tu sais, t'as tout ça. En vérité, dans les coulisses, c'est l'énergie. Cette énergie, c'est Dieu. Mais je le vois pas. Et alors? C'est pas parce que tu ne le vois pas que c'est pas ce qui se passe. C'est la vérité. Après, j'ai encore une autre histoire pour illustrer ça, mais Michel, elle voulait dire oui.
Non, j'ai que, finalement, ce que tu viens de dire par rapport au son du chauffard, toutes les décisions, toute notre histoire, elle ne peut que, comment dire, en fonction de nos prières, tout ce que tu viens de dire.
L'avenir de l'histoire, l'avenir de l'année se joue dans nos prières. Après, il faut quand même maîtriser les cordes. Ça veut dire que toutes, l'Admorazaken, c'est pas n'importe qui. C'est-à-dire que l'Admorazaken, il sait avec son chauffard faire bouger les choses en haut. Nous, on a plus de mal. On fait ce qu'il faut faire parce qu'on est en mode d'emploi, on suit le mode d'emploi. Donc, un mode d'emploi, il marche. Quand on t'achète un appareil, on te dit appuie sur le bouton on, on, off, off, j'appuie. Maintenant, je ne suis pas dans les coulisses. Je ne sais pas si je vais appuyer deux secondes sur on, ce qui va se passer. Je ne suis pas dans les coulisses. Mais c'est ce qui se passe, c'est ça, c'est ce qui est pas contre le chauffeur.
L'exemple tout bête du Vaudor, déjà, on sait très bien qu'on a fait une mauvaise action, ça nous a coûté un bras.
Oui, bien sûr, bien sûr. Ça nous a coûté jusqu'aujourd'hui.
Oh, il y en a qui disent que c'est, évidemment, c'est une bonne chose.
Ah, d'accord, non, mais c'est une autre question. Est-ce que c'est une mauvaise chose? La notion de bon et mauvais est subjective ici. Ce que je veux dire ici, c'est que ce qui se passe dans les coulisses est beaucoup plus complexe que ce qui a l'air.
Mais c'est normal, puisqu'on peut pas le voir. Alors évidemment, on peut dire ce qu'on veut aussi, de ce qui se passe dans les coulisses.
Ok, alors dans ce cas-là, monsieur Benita, vous allez arrêter de faire la prière dans le Shana. Parce que moi, ce que je vous dis, c'est écrit dans le Shana. Non, c'est sérieux ce que je vous dis.
Non.
Moi, j'invente rien.
Non. Je suis d'accord.
Sans prétention, c'est ce qui est écrit dans la prière dans le Shana. On te dit que Dieu maintenant, Hayom Arat Olam. Aujourd'hui, c'est le jour où le monde est en train de naître. Le monde renaît. Mais qu'est-ce que tu racontes?
On écrit l'histoire. Rien.
Vous savez, c'est toujours un petit peu ce choc que tu as.
Mais ça,
quand tu fais des grands mouvements, des grandes prières, et tu sors de la synagogue. Tu sors de la synagogue dimanche soir. Tu as fait une grande prière, on t'a raconté, le rabbin t'a fait une racha, le monde va changer. Tu sors de la prière. Tu sors dehors dans la rue. Qu'est-ce que tu vois dans la rue, dans la route pour aller chez toi?
Même chose.
Les voitures qui avancent.
Je vois ce que je vois chaque jour.
Voilà. Tu vois le voisin qui promène son chien.
Continue.
Tu vois les mêmes nuages. Tu vois les mêmes trucs.
Le monde continue, fonctionne. Oui.
Donc tu te dis bon. Je dis moi j'ai fait des grands changements dans ma synagogue, mais tu dis je vois pas dans les faits que ça a changé. Tu comprends? C'est difficile. C'est compliqué. On te dit ok, tu ne vois pas. Est-ce que parce que tu ne vois pas ça se passe pas? Je vais raconter une histoire pour lui. Ça la prend aller dans les mots. Une fois. Il y avait le rabbi Rachab, l'avant-dernier rabbi de Lubavitch, a reçu quelqu'un. Et cette personne-là, voilà, il essayait de lui expliquer comment, en vérité, il fallait servir à Kadosh Baruch Hu, qu'il fallait être fidèle, et que même si on a l'impression que Kadosh Baruch Hu ne nous protège pas, en vérité, il nous protège, il est avec nous. Il essayait de lui expliquer l'idée qu'on explique ici, qu'il y a un monde dans les coulisses. Et que même si on ne le voit pas, c'est ce qui se passe. Alors ce juif, qui est un peu émancipé, il a dit à rabbi Rachab, il a dit, Rabbi, je comprends pas ce que vous dites. Il dit, la réalité n'est pas comme ça. Vous êtes dans une vie complètement abstraite. C'est faux ce que vous dites. Enfin, c'est pas faux, mais en tout cas, la réalité n'est pas comme ça. La réalité est un monde qui est beaucoup plus concret. Vous avez un monde où vous dites, on décide tout. Qu'est-ce que tu décides? Ça ne décide rien du tout. Il y a des rabbins qui sont là, ils vont changer le monde. Alors, il a dit la chose suivante. Il a dit, je vais te donner une parabole. Il a dit, tu sais, pour aller à l'époque, dans le village de Lubavitch. Lubavitch, c'est un petit village. D'accord? Il y avait là-bas, à Lubavitch, il n'y a pas de gare. Il y avait un projet de faire une gare, mais le rabbi de Saint-Martédek, troisième rabbi de Lubavitch, s'est opposé. Parce qu'il est à l'époque, dans les villes où il y avait des gares qui passaient, alors c'était les villes qui devenaient des villes de grands mouvements, etc. D'accord? Donc, lui, il s'est opposé. Maintenant, comment un rabbi va s'opposer? Il y avait un choix, il y avait un tracé qui était dessiné par le gouvernement, qui a dit que, par la ville de Lubavitch, il y a le train qui va passer. Le rabbi de Saint-Martédek, il n'a même pas fait appel au gouvernement. Il a dit, je m'oppose et un tracé passera pas par là. Il y avait un tracé, tout était fait, ils ont commencé les travaux et tout. Et pour une raison qu'on ignore, à un moment, ils ont modifié le tracé et on le voit jusqu'aujourd'hui encore. Dès que tu vas à la ville de Lubavitch, quelques centaines de mètres avant, le tracé il tourne, il fait un tour comme ça. Il contourne la ville de Lubavitch. C'est la vérité, véridique. Voilà, parce que le rabbi c'est Marcelet qui s'opposait. Il a dit, je veux pas de train chez moi. Il n'y a pas eu de train, c'est tout. Peut-être qu'officiellement, ils ont trouvé de l'eau, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Tu vois le tracé, tchouk, d'accord?
Ils savaient qu'il y avait quelque chose en dessous.
Continue l'histoire. Maintenant, pour aller, comment c'est pour aller à Lubavitch? Prenez le train. On s'est arrêté à la ville d'à côté qui s'appelait Rodania. C'est le nom de la ville, Rodania. Et après de Rodania, il fallait prendre une calèche pour aller jusqu'à Lubavitch. Calèche, donc pendant, ça durait, je sais pas, quelques heures. Enfin, il fallait prendre une calèche pour aller à Lubavitch. Alors, le rabbi Rachab pose la question à ce juif. Il lui dit, j'ai une question à te poser. Quand on arrive à Rodania, et que de Rodania, on va aller à Lubavitch. Donc, on va prendre une calèche. Dans cette calèche, il y a trois éléments. D'accord? Il y a un cheval.
Il y a
la calèche, elle est conduite, d'accord? Il y a le cocher. Et il y a le passager. Maintenant, si on pose la question à chacun de ces trois éléments, vers quel objectif il court? Si on pose la question au cocher, qu'est-ce qu'il va te répondre? Il dit, moi, mon objectif, c'est gagner de l'argent. Donc, pour gagner de l'argent, je vais là, ça me change rien. Moi, je veux gagner de l'argent. Donc, mon objectif, c'est d'arriver le plus vite possible et de refaire la prochaine course le plus vite possible. Hubert, oui. Marcel,
c'est son métier.
C'est son métier.
Ouais. Ah, oui.
Donc, Donc le cocher n'est pas en train d'aller chez le rabbi. Le cocher, il va vers ses parnassas. Ouais. Si on pose la question au cheval, on dit vers où tu cours, qu'est-ce qu'il va répondre? Le cheval, il dit je cours vers ma carotte. Parce que comment on fait pour faire courir un cheval? Tu lui mets une carotte devant et il court tout le temps parce qu'il croit qu'il va attraper la carotte.
Ouais, c'est l'âne.
Bon, ouais, cheval, c'est une image. C'est-à-dire que le cheval, tu lui donnes une carotte, c'est-à-dire que tu lui donnes une, quelque chose. Donc tu le fais croire que quand on va arriver là-bas, on va bien manger. Donc il faut lui faire croire quelque chose. Donc tu le fais courir. Donc le cheval, il s'est dit je vais faire plaisir à mon maître. Donc du coup, il court. Il court vers quoi? Il court vers son intérêt. Il veut manger. Il veut manger, il veut se reposer. Donc tu poses la question au passager. Le chassid qui est dans la calèche, il lui dit où tu vas. Il dit je vais chez mon rabbi. Pourtant le parcours est le même. C'est la même calèche, le même cocher, le même cheval, le même client. C'est un parcours, il n'y a pas trois parcours ici. Mais pourtant c'est trois objectifs différents. Il y en a un qui va vers son, il y en a un qui va vers son argent, un autre qui va vers sa nourriture et l'autre qui va chez son rabbi. Alors il lui a dit la chose suivante. Il lui a dit est-ce que parce que ça se dit pas trop en français, mais bon, est-ce que parce que l'âne est un âne, enfin le cheval est un cheval, et le cocher est un cocher, le chassid n'est pas un chassid, en d'autres termes, est-ce que parce que dans le parcours il y en a un qui pense qu'il va chercher son argent, l'autre qui pense qu'il est en train de chercher sa nourriture, est-ce que pour ça lorsque le chassid dit je vais chez mon rabbi, il se trompe?
Chacun sa nature, il garde sa nature.
La vérité c'est que le chassid est en train d'aller chez son rabbi. Seulement, il y en a qui ont compris cette réalité, il y en a qui n'ont pas compris. Le cocher, il ne pense pas à Louavitch, le cocher, il pense à son argent. Mais est-ce que parce que le cocher ne pense pas à son argent, pense qu'à son argent, il n'est pas allé à Louavitch, il est allé à Louavitch. Ça veut dire que ce que veut expliquer le Rabbi Rachab avec ça, à ce chassid, enfin, je sais pas si c'est un chassid, ce que voulait lui expliquer, il voulait lui dire, c'est pas parce que le cocher ne pense pas à ce qui est en train de se passer que ça ne se passe pas.
Ah, d'accord, bien sûr.
Il y a plein d'événements dans la vie comme ça, que officiellement tu crois faire quelque chose, mais en vérité tu fais autre chose. Et on te dit, oui, mais moi, j'y pense pas. Moi, je pense à ça. Lui, il pense à ça. Dit, qu'est-ce que ça change? C'est exactement comme l'exemple de l'âne, du cheval. C'est la même chose. C'est pas parce qu'il y en a un qui a pas capté ce qui se passe que c'est pas en train de se passer. Ça se passe. C'est maintenant. D'accord? Ça, c'est encore une fois une deuxième idée pour illustrer ce qu'on est en train d'expliquer. Que même si on ne voit pas de nos yeux l'énergie divine qui se trouve dans chaque élément, elle est là. Et pas seulement qu'elle est là. C'est l'essentiel. C'est ça l'essentiel.
Mais là, on la voit.
Non, justement.
On voit le cocher, on voit la charrette, on voit le...
Non, pas du tout. Je vois pas. L'âne, il ne voit pas Lubavitch. Il ne sait même pas ce que c'est.
Ben oui, c'est normal.
Très bien. Ça n'empêche que l'âne est parti à Lubavitch.
Oui, mais oui. Enfin, bon, c'est un âne. On le conduit là où on veut.
Non, pas du tout. Parce que l'âne, il a une volonté propre.
Il ne peut pas aller à Tartompion.
Bien sûr.
Si on doit le...
Mais l'âne,
le...
il a une volonté propre. Qu'est-ce qu'il se dit? Comment tu le convaincs? Il faut le convaincre.
Il est tenu par l'élève.
Mais je comprends, mais il faut le convaincre. Il faut lui raconter quelque chose, Alain. Il faut lui raconter un message. Il faut lui vendre une déballe. Qu'est-ce que tu lui racontes, Alain? Tu lui dis, on va aller là-bas, tu vas manger. C'est tout. Alors, ça, vous voyez, dans la vie, il y a plein de choses qui sont comme ça. Justement, aujourd'hui, pourquoi t'es parti travailler aujourd'hui? Pourquoi t'es parti travailler aujourd'hui? Alors, il y en a un qui va te répondre, je suis pas travailler pour gagner de l'argent. Il y en a un qui va dire, je suis pas travailler pour aller chercher un client. Il y en a qui va dire, je suis parti travailler pour aller récupérer les étincelles divines, pour les approcher de la Kadosh Baruch Hu. Les trois ont raison. Seulement, il y en a un qui a rien compris. Il y en a un qui a tout compris. Mais c'est les mêmes faits. Les faits sont là. Les faits sont les mêmes. C'est exactement ce que dit Salomon Razaken. D'accord? Alors. Car, on va prendre la page 45.
Ouais, mais en disant ça.
Ah, c'est profond, hein, monsieur Bézard.
Non, mais c'est pas ça. En disant ça, on met les trois sur le même plan d'égalité.
Pas du tout. C'est pas ce que j'ai dit. Les trois.
Ah ben, puisqu'on le dit finalement, les trois.
Exactement. Les trois participent à la même scène.
Donc, ils ont le
Et pourtant, ils ont des objectifs différents. Comment tu expliques
les trois,
ça?
Ils ont le même mérite.
Parce que le problème, c'est que quand tu prends du recul et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce qu'il y a une personne qui gagne son argent? Est-ce qu'il y a un âne qui est en train de chercher à manger? Ou est-ce qu'il y a un chassid qui va chez son rabbi? Qu'est-ce qui se passe?
Les trois.
C'est les trois?
Oui, mais le chassid, il a besoin de tout ça pour accomplir ce dont il a besoin.
Alors, exactement. C'est quand, qu'est-ce qui se passe dans les coulisses vraiment? C'est qu'Hachem est en train de faire qu'il y a un chassid qui va chez son rabbi. C'est ça l'essentiel.
Peut-être que le cocher aussi, il n'a rien. Et
le cocher, le cheval, tout.
Eh oui.
Il va voir le rabbi, il va lui poser une question.
D'accord. Pour nous montrer la puissance, la profondeur. Ok. Alors, Rak. Alors, on va prendre la page. Car, page 45, troisième paragraphe. Car, Kol haberuim, de même, tous les êtres créés, en nofel aleem shem yeshkla elan nebasar shelanu. Tous les êtres créés ne sauraient aucunement être définis comme existants, si ce n'est à nos yeux de chair. Rappelez-vous l'exemple du soleil. D'accord ? Qu'est-ce qu'on avait expliqué avec l'exemple du soleil ? Lorsque le rayon se trouve dans le soleil, à ce moment-là, le rayon, il vaut rien, il sert à rien. À quel moment le rayon prend toute son indépendance ? Lorsque le rayon a quitté le soleil. Qu'est-ce qu'on avait expliqué par ici ? Que c'est pas parce que toi, quand tu vois le rayon ici, tu lui donnes l'importance, que le rayon est important. En vérité, dans l'absolu, le rayon n'est pas important. Il n'est rien, il n'est rien du tout. Donc quand il est indépendant, pseudo-indépendant, là, il donne de l'importance. Donc, de la même façon, exactement. Il dit, car collab toutes les créations, en vérité, est-ce qu'on peut dire que ce verre est une existence ? Il existe. Le terme existence, en hébreu, veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a une indépendance. En vérité, il n'a pas d'indépendance. Mais pourtant, c'est faux, Mendy. Pourtant, je vois une indépendance. Ce verre, il a des comptes à rendre à personne. Personne. Il n'y a pas Madame Verre qui est ici qui lui dit où tu étais. Rien du tout. Il a des comptes à rendre à personne. Alors, à qui il rend des comptes ? Il n'a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de compte à rendre à personne. Alors, comment ça marche ?
C'est une nature morte.
Réponse de l'Admor HaZaken, justement. Il dit pas du tout. Au contraire. Il dit parce que toi, tu vois le verre avec tes yeux. Mais c'est pas parce que tu es limité avec tes yeux de voir que ce que tu peux voir que dans les coulisses, il ne se passe pas quelque chose. C'est ce qu'il dit ici. Que avec nos yeux, que comme nos yeux ne voient pas la spiritualité, qu'ils voient que la matérialité, c'est pour ça que nos yeux vont dire « Ah, il y a devant moi un yesh. Il y a devant moi une existence. » Pourquoi ? Parce que nous nous voyons et on n'arrive pas à percevoir la source chez Ruach Hashem Mevotam, qui est le souffle de Dieu qui les fait vivre. C'est pour ça qu'à nos yeux, l'aspect matériel, physique et tangible de chaque chose a l'air comme une parfaite existence. Je dis ça, c'est une existence parfaite. Il y a Dieu et il y a le verre. Volontairement, je pousse un peu l'idée. D'accord ? C'est-à-dire que c'est vrai, si tu dis que le verre est indépendant. Donc finalement, il y a Dieu et il y a le verre. Et il y a le téléphone et personne n'a de compte à rendre à personne. Ok ? En vérité, c'est faux. Tout ça, c'est Kadosh Baruch Hu. C'est ce que nous dit, c'est le Morazaken. Et donc, exactement, que Moshe Nire or Hashemesh, Yesh Gamor Shelom Yugoro. Bon. Alors, maintenant, la question qu'on va essayer de se poser, c'est la suivante. Reprenons l'exemple du soleil. On va rafraîchir un peu la mémoire. Ça fait une semaine qu'on a étudié, il faut qu'on rafraîchisse un peu la mémoire. Qu'est-ce qu'on a expliqué ? Le rayon du soleil, lorsqu'il se trouve dans le soleil, avant de descendre, est-ce qu'il a une importance ?
Non.
Non. Il n'a pas d'importance. À quel moment il prend son importance ? Dès lors qu'il a quitté sa source, qu'il s'est éloigné à 300 millions de kilomètres de la Terre. C'est ça, 300 millions, on a dit ? 300 millions. Là, ce rayon...
140 millions.
On avait dit 140 millions. Donc là, à ce moment-là, le soleil, il prend... Le rayon de soleil, il prend son importance. Très bien. Sauf que là, il y a quand même une idée. Écoutez bien. Il ne faut pas perdre le fil. Là. C'est que le soleil se trouve où ?
Dans le ciel.
Il est où, le soleil ?
Il est loin.
Il est très loin. Et physiquement, il est très loin. Le soleil millions. N'est pas sur la Terre.
Il est à 300 millions, on n'aurait même pas...
D'accord ? Il est à des millions de kilomètres d'ici.
142 millions.
Donc, 142 millions, vous avez dit. Bon. Donc, comme ouais, il est à des millions... Comme il a des... Non, il a répété ce que tu as dit.
Alors,
donc, bon. Très bien. Donc, comme du coup... 142 millions. Donc, du coup...
Et 600 000.
Du coup, rabotant, par pas de
ville.
Donc, le soleil... Il est dans l'absolu. Il est loin de la Terre.
Très loin.
Il est réellement loin de la Terre. C'est pas une illusion, ça. Donc là, on peut comprendre comme il est loin de la Terre. Alors, le rayon de soleil, quand il était dans le soleil, il servait à rien. Mais une fois qu'il s'éloigne, qu'il prend la distance, qu'il arrive à 59 millions, là, il prend de l'importance. Mais ici, le soleil n'est pas là. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi c'est beaucoup plus complexe pour un Kadosh Baruch Hu. Parce que dans le soleil, il y a une notion de distance. C'est-à-dire qu'il y a une source, il y a une origine, et dès que l'énergie se déplace de cette origine et va quelque part, donc cette énergie prend une existence indépendante qu'elle n'avait pas lorsqu'elle était à sa source. Mais le problème qu'on a avec le Kadosh Baruch Hu, Kaviyachol, c'est que le Kadosh Baruch Hu n'est pas comme le soleil qui est à 50 millions de kilomètres. Le Kadosh Baruch Hu est partout. Donc là, c'est un peu comme si je vous disais que le soleil est dans la Terre. Le soleil est dans la Terre. Et pourtant, à 149 millions de kilomètres, c'est une boule qui brûle tout. Et dans la Terre, le soleil ne brûle pas. Alors qu'il est là.
On l'aurait déjà voulu.
Ah, c'est plus complexe.
Lueur.
Vous comprenez mon problème ?
Ouais. Et oui.
C'est que, si tu, ça veut dire que si tu veux envoyer Dieu très loin, tu dis, il est loin, et qu'il y a un rayon qui descend jusqu'ici. Bon, là effectivement, Dieu est très loin. Bon, il y a des rayons qui arrivent, on capte ce qu'on peut, et quand on est loin, on fait les malins. Et dès qu'arrive le jour de 120 ans, on revient, là on se calme. Moi, on te dit, c'est faux. Kadosh Baruch Hu, il est partout. Alors, quelle est la différence ? C'est qu'en fait, et c'est ça la force de ce chapitre qu'on va développer, c'est qu'en fait, qu'est-ce qu'il fait Kadosh Baruch Hu ? Pour reprendre l'exemple du soleil, le soleil est ici, il est avec toi. Okay. Mais Hachem fait en sorte que le phénomène que tu vois devant toi, c'est un phénomène qui ressemble comme si que le soleil n'était pas là, comme si que le soleil était à des millions de kilomètres. Vous me suivez ? J'en comprends.
Oui, comprend. Alors ça veut dire aussi que on peut aussi extrapoler et dire que finalement la lumière du soleil est plus forte que la lumière de Dieu.
Non, le soleil est une parabole, monsieur Benita.
Oui, puisqu'on a dit que sa lumière, elle vient à 149 millions de kilomètres. Alors que pour avoir la lumière de Dieu, elle est là, elle est parmi nous.
Là, ça rend de mourir. Il doit y avoir un truc en haut. Là. Ouais. J'ai mis du produit tout à l'heure.
Ah, d'accord. Ah,
ouais, bien sûr. Il y en a plusieurs. Il y a un truc quelque part qui crée. Il se décompose. Non, un truc qui se décompose.
Ils ont fait des petits œufs.
Ouais, allez-y. Alors, oui, votre question. Le soleil, c'est un exemple, c'est une parabole. C'est pour illustrer que il y a une source de l'énergie, il y a une énergie. Ok ? Et donc, effectivement, le rayon du soleil, lorsqu'il s'éloigne du soleil, il prend une certaine autonomie, on le respecte, etc. Mais le problème qu'on a dans le nimshal, dans l'image par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est que Kadosh Baruch Hu n'est pas quelque part, il est partout.
C'est-à-dire que nous, l'énergie.
Donc, s'il est partout, normalement, ça devrait être comme une boule de feu qui brûle tout. Pourquoi on ne brûle pas devant Hachem ?
Ben voilà, c'est ça.
Donc en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'Hachem est toujours là, mais il se cache. Dans le sens que tout en étant là, il se cache. Comme si il n'était pas là.
Et il peut résister à ce feu.
C'est-à-dire que le phénomène est comme si il n'était pas là. C'est-à-dire que le feu est là, mais Hachem fait en sorte que le feu n'est pas visible et c'est comme si il n'était pas là, donc tu ne brûles pas. Et donc toi, du coup, tu dis, ah, le feu, bah, il a 100 millions de kilomètres, pas de problème.
Finalement, je pense que finalement, le soleil, parce qu'il est trop loin par rapport à nous, parce que 149 millions de kilomètres, on se demande comment il peut briller. Moi, je pense que toute la matière qui nous entoure, qui est la main de Dieu, fait en sorte que cette matière se transforme comme un miroir.
Regarde.
Qui reflète. Bah oui.
Le soleil n'est qu'un exemple ici. Bah, mais... On n'est pas venu pour faire un cours d'astronomie.
D'accord, j'essaie.
Ah, vous avez la même question en arrière. le soleil, on n'est pas venu faire un cours d'astronomie. Si le soleil est un exemple. On veut essayer d'expliquer comment une énergie qui descend d'un Kadosh Baruch Hu peut avoir l'air indépendante. Donc l'exemple le plus fort, l'énergie la plus puissante qu'on a trouvée sur la Terre, c'est quoi ? C'est le soleil. On n'a pas trouvé d'énergie plus puissante. Donc c'est pour ça que quand on cherche un exemple d'une énergie, on dit on va trouver l'énergie la plus puissante. C'est le soleil. C'est tout. C'est pour ça qu'on parle du soleil. On ne va pas parler d'astronomie, parce que le soleil est une créature d'Hachem comme vous, comme moi, comme tout le monde.
Elle représente.
C'est un exemple.
Hein, d'accord.
Le soleil, c'est un exemple pour parler d'énergie et de source d'énergie. Voilà. Le ratio entre l'énergie et la source de l'énergie. Et dans le soleil, on voit clairement que plus on s'éloigne de l'énergie, et plus l'énergie devient indépendante. C'est la réalité. Plus on s'éloigne, et plus l'énergie devient indépendante et respectée. Sauf que par rapport à Kadosh Baruch Hu, on ne peut pas s'éloigner d'Hachem, puisqu'il est partout. Donc qu'est-ce qui se passe ? À Kadosh Baruch Hu, plus on va descendre dans le monde, et plus il va se cacher, tout en étant là, au point que c'est comme si qu'on ne le voyait pas, mais il est là. C'est comme si qu'on ne le voyait pas, mais il est là. Ben, vous comprenez que ça devient très complexe. Là. David, il a raison, ça devient très complexe. Je ne comprends pas. Il est là ou il n'est pas là ? Qu'est-ce qu'on raconte là ? Guy, tu comprends ? Non, c'est pas comme le soleil, parce qu'il est là, mais on ne le voit pas, mais il aurait... Je ne comprends pas. Il est là ou il n'est pas là ? S'il est là, pourquoi je ne brûle pas ? S'il n'est pas là, ben laisse-moi tranquille. Je suis indépendant ou je ne suis pas indépendant ? Voilà, réponds-moi clairement à la question. Est-ce que j'ai le droit de décider maintenant si je fais le chouva ou pas ? Allez, voilà. Il reste quelque chose que Rosh Hashanah. Ça dépend de qui, là, ce qui va se passer en Rosh Hashanah. C'est Dieu qui décide ou c'est moi qui décide ?
C'est toi.
Alors, donc je suis indépendant, alors. Alors, réponds-moi à ma question. Je suis indépendant ou je ne suis pas indépendant ? Tourne du pot. Tu dis, tu comprends, tu crois que tu es indépendant, mais tu n'es pas indépendant. Tu ne racontes pas des salades. Tu es indépendant ou tu n'es pas indépendant ?
On choisit la bracha ou la terrasse.
C'est compliqué. Avec le soleil, c'était facile. Le rayon du soleil, une fois qu'il a quitté le soleil, il est parti. Le soleil n'est plus d'emprise sur lui. C'est fini, il est parti le rayon. Ok, il est parti. Mais là, avec Hachem, c'est étonné. Non, tu ne peux pas quitter Hachem. Parce qu'il est partout. Donc Hachem ne peut même pas irradier. Parce que quand tu irradies, c'est-à-dire tu irradies sur quelque chose d'autre. Mais il n'y a rien qui est autre à Hachem. Donc comment ça fonctionne ? Peut-être c'est un petit peu fou. Mais déjà, ce qu'on a compris, au moins, je pense, dans ce chapitre, c'est la notion que c'est pas parce qu'on ne voit pas une chose d'une certaine façon que c'est pas ce qui se passe. Et on a donné des exemples avec Rosh Hashanah. Que même si tu ne le vois pas, c'est ce qui se passe. De la même façon, même si quand je vois le monde, je ne vois pas l'énergie divine, c'est ce qui se passe. C'est la réalité.
Pour le monde, il existe.
La vraie réalité, c'est ça. C'est l'énergie d'Akadosh
Baruch Hu. Il existe le monde. Quoi.
La vraie réalité, c'est que Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. C'est qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça, c'est la réalité. Tout le reste, c'est ce que tu vois avec tes yeux. Je vois ci, je vois ça. Ça, c'est ce que tu vois. Une fois, dans une...
Mais dans le même temps...
Puisqu'on parlait du tsar. Une fois, dans une école en Russie, il y avait un prof qui, vous savez, là-bas, à l'époque, on les éduquait qu'il n'y a pas Dieu. On connaît que le père, c'est Staline, et la mère, c'est la Russie, et qu'il n'y a pas Dieu, on ne connaît pas. Alors, une fois, il y a un prof, il rentre en classe, il pose la question, il dit, qui est notre père ? Et un gosse qui répond, il dit, c'est Dieu ! Ah, le prof, ça l'a énervé tout de suite, ce petit juif. Le gosse, alors le prof, il dit, qu'est-ce que tu racontes ? Il commence à faire à déballer. Il dit, mais regardez, est-ce que la table, vous la voyez ? Toute la classe répond, oui. Est-ce que la chaise, vous la voyez ? Oui. Le tableau, vous le voyez ? Oui. Etc. Et il avance. Et il dit, est-ce que Dieu, vous le voyez ? Non. Alors, il n'y a pas de Dieu. Alors, le petit gosse, il répond, il y a plusieurs versions sur qui était ce gosse, mais en tout cas, c'est une belle image. D'accord ? Le petit gosse, il répond, il pose la question, il dit, est-ce que vous voyez la main du professeur ? Oui. Est-ce que vous voyez la tête du professeur ? Oui. Est-ce que vous voyez la cervelle du professeur ? Non. Alors, il n'en a pas.
Bien joué.
C'est quoi la force, cet exemple ? C'est que même si...
Ça veut dire que si on ne voit pas, il ne faut pas... Voilà.
Non, c'est que... Non, attendez, c'est pour ça la réponse. C'est que même si tu ne vois pas quelque chose, tu peux essayer de comprendre la chose par son expression. La cervelle, tu ne la vois pas, mais tu vois l'expression de la cervelle. De la même façon, je ne vois pas Hachem. Mais si tu t'approfondis un peu, tu peux voir l'expression d'Hachem. Tu peux voir les phénomènes qui se passent dans le monde, c'est une expression d'Hachem. Je ne vois pas la cervelle, mais je vois quelqu'un qui fait des choses intelligentes. Donc je me dis, s'il fait des choses intelligentes, c'est qu'il a une cervelle. De la même façon, je ne vois pas Hachem avec mes yeux, mais si je vois ce qui se passe, je comprends qu'il y a des choses qui se passent. Mais ça reste toujours une conclusion personnelle. C'est-à-dire que c'est subjectif, je peux comprendre comme ça, je peux comprendre autrement. Effectivement, je suis d'accord, vous avez raison, effectivement. Mes yeux ne voient pas forcément la réalité. Eh bien, c'est comme ça. Mais c'est la réalité. Ce qu'il dit, c'est le mot. Alors, maintenant, la question... Donc, on va passer maintenant au chapitre 4, parce que là, je vous explique à l'oral jusqu'à la fin du chapitre 3. Donc, conclusion, on a expliqué que, en vérité, il y a ce qu'on voit devant nos yeux et il y a ce qui se passe en coulisses. Et ce qui se passe devant nos yeux n'est pas forcément ce qui se passe en coulisses. Devant mes yeux, je vois une énergie indépendante, alors qu'en vérité, en coulisses, elle n'est pas indépendante. D'accord ? On a donné un exemple avec le soleil, mais la conclusion qu'on avait, c'est que l'exemple avec le soleil n'est pas précis à 100%. Pourquoi ? Parce que dans le soleil, l'énergie du soleil est distante du monde, alors que par rapport à Kadosh Baruch Hu, Dieu est partout. Alors si Dieu est partout, pourquoi je ne brûle pas devant lui ? Comment je peux me sentir indépendant ? Ça, c'est la question. On va commencer le chapitre 4. Ok, alors on y va. Alors, chapitre 4. Qui inactif ? Ach la vin zet, sach la gdin, qui inactif ? Il est écrit. Il y a un psaume du roi David. Le psaume 84, dans lequel le roi David va comparer deux noms d'Akadosh Baruch Hu à des phénomènes liés au soleil. Encore une fois, on va parler du soleil. Ok ? Je vais lire le pasouk et on va le traduire ensemble. On va essayer de comprendre ce que veut nous dire ici le roi David. Et encore une fois, notre objectif ici, c'est d'essayer de comprendre comment on a l'impression qu'on est indépendant si on ne l'est pas. Pourquoi on ne brûle pas devant Hachem ? Si de toutes les façons, il est là. Alors, on y va. Perek Daletz. Qui inactif, car il est écrit. Shemesh umagen Hashem Elokim. Il est écrit dans le psaume 84. Qui shemesh umagen Hashem Elokim, que Akadosh Baruch Hu, Hashem et Elokim, c'est un soleil, un bouclier. Un soleil, un bouclier. Bon, faut qu'on explique un peu ce qu'il dit ici. Il y a le soleil. Attends, je vais fermer là-bas. Comment, hein? Ah, Hana, je peux fermer la porte, merci. Je peux juste fermer la porte.
Dans la porte, s'il vous plaît, la porte.
Ah. Bon, oui. Non, je suis sur la mitzvah.
Merci, c'est bon, c'est bon.
La mitzvah est fatiguée. Merci.
La porte, merci.
Tu vas faire le rabbi qui récupère les...
C'est bon.
Allez, on y va. Alors, qui est inactif ? Kishemesh umagen Hashem, Kishemesh umagen Hashem Elokim. Je reprends. On a le soleil et le bouclier. On va reprendre l'exemple du soleil. L'énergie du soleil est très très forte. Et donc, pour que cette énergie ne brûle pas le monde, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu ? Akadosh Baruch Hu, il met un bouclier. De quoi on parle dans ce bouclier ? Alors, il y en a certains qui vont dire c'est la couche d'ozone. Mais en vérité, c'est beaucoup plus profond. C'est écrit comme ça. C'est écrit que lorsque Mashiach va venir, Akadosh Baruch Hu va faire sortir le soleil de son bouclier. Et les tzadikim vont guérir avec cette énergie, et les réchaïm vont brûler. Ils vont guérir. C'est-à-dire que le soleil amènera une énergie extraordinaire, puissante. Tout le monde tient son énergie, on est d'accord ? L'énergie, c'est la clé du futur.
Bien sûr, oui.
Donc lorsque Mashiach viendra, Dieu va débrider l'énergie du soleil. Comme ça, c'est écrit.
Débrider.
Ça veut dire que là, elle est bridée. Elle est bridée. Il y a un bouclier autour. Il y a un bouclier autour qui la bride. Hashem va débrider l'énergie du soleil. Pour l'instant, je parle au sens littéral. Après, au sens figurant, on regardera après. Donc il va débrider l'énergie du soleil. Les tzadikim seront guéris par cette énergie. Les plantes pousseront pour eux de façon exponentielle. En un jour, les plantes vont pousser. Tu plantes, le jour même, ça pousse. Parce qu'il y aura une énergie qui sera complètement différente. Qui sera très très puissante. D'accord ? Les gens vont guérir du jour au lendemain. Tic, en une seconde. Parce que l'énergie est différente. C'est-à-dire quand l'énergie est limitée, donc les choses se passent lentement. Quand l'énergie est très puissante, les choses se passent très très vite. C'est ma chérie. Mais le problème, c'est quoi ? C'est que d'un autre côté, celui qui n'est pas habilité à capter cette lumière, il brûle.
Il brûle, oui.
C'est comme un chargeur. Tu comprends pourquoi je mets un chargeur pour charger ce téléphone ?
C'est sûr.
Parce que le téléphone, il lui faut du 5 volts.
Ouais, ça va pas trop.
Là-bas, il y a du 220. Donc si c'est une énergie trop forte, ça brûle. Ok. Donc on a Shemesh ou Magen, le soleil et le bouclier. Bon, le bouclier, ça veut dire que c'est déjà la couche d'ozone, c'est déjà toutes les couches atmosphériques qu'il y a, etc. Mmh. Qui font que y a toute cette variation de température, d'accord ? Ça veut dire que dans chaque couche du monde, de l'univers, il y a une différence de température qui s'explique pourquoi Hachem a fait cette chose-là. Ici sur Terre, il doit faire une certaine température. Dans la mer, il doit faire une autre température. À 10 km ici, il doit faire moins 50, etc. Et après, dans chaque planète, dans chaque sphère, il y a une température qui correspond. Ok. Shemesh ou Magen. Un soleil, un bouclier. Maintenant, le roi David, qui était au courant de ce phénomène, c'est une nouveauté, parce que d'où est le courant de ce phénomène ? Le roi David, il voit que devant lui, il voit le soleil. Bon. Mais il est au courant. Il est au courant qu'il y a Shemesh ou Magen. Et il dit que, de la même façon, Akadosh Baruch Hu, il a deux noms principaux. Il y a plusieurs noms, Akadosh Baruch Hu. Il a des dizaines de noms. Mais il a deux noms principaux. C'est Hashem, Yud-Ké, Vav-Ké, donc le tétragramme, et Elohim. Hashem, c'est le tétragramme. C'est l'énergie divine qui transcende le monde. Le passé, le présent, le futur en même temps. Yud-Ké, Vav-Ké, c'est très grave. Et Elohim, c'est la même valeur numérique que Hateva, que la nature. Pourtant, et là on arrive au sujet de notre cours, pourtant, c'est le même Dieu. Alors comment le même Dieu peut-il être limité et illimité en même temps ? Alors comment quelle solution le roi David a trouvé pour répondre à cette question ? C'est le soleil et le bouclier. Dit de la même façon que toi tu te poses la question, comment Dieu peut être limité et illimité en même temps ? Pose-toi la même question, comment le soleil peut-il être brûlant et modéré en même temps ? C'est qu'il y a un bouclier. C'est-à-dire qu'il y a l'énergie du soleil est très puissante, mais il y a un bouclier. De la même façon, l'énergie d'Akadosh Baruch Hu est très puissante, mais il y a un bouclier. C'est qui le bouclier du nom d'Hachem ? C'est le nom de Elohim. On va développer, attention, parce que c'est très puissant. C'est-à-dire que là, maintenant, vous aurez une kavana, on aura une kavana quand on lira dans les prières, Baruch Ata Hachem Elokeinu, Hachem, on arrive Hachem Elokeinu. Alors en français, pour faciliter les choses, on a dit l'éternel notre Dieu. Bon, mais c'est quoi l'éternel ? L'éternel c'est Dieu et Dieu c'est l'éternel.
Ben, c'est ça.
Parce que Hachem, Hu Elohim, l'éternel est Dieu. Donc, quand tu dis, je viens, béni sois-tu l'éternel notre Dieu. Si c'est l'éternel, c'est notre Dieu.
C'est un pléonasme.
C'est un pléonasme.
Mais
une tautologie, je veux
dire. D'ailleurs, dans les chites, au tout début, il s'appelle Elohim.
Elohim, c'est pas. Alors justement, c'est pas un pléonasme.
Et après,
c'est deux dimensions divines, comment Hachem se dévoile ? Il y a Hachem et il y a Elohim. Hachem, c'est l'énergie divine telle qu'elle est débridée. Elohim, c'est l'énergie divine telle qu'elle est bridée pour donner naissance à ce monde. Mais n'oublions pas, c'est la même énergie. Il ne s'agit pas de deux énergies différentes. De la même façon que quand tu élignes dans ta prière Hachem Elohim, tu dis pas, il y a une entité qui s'appelle éternel, il y a une entité qui s'appelle Dieu. Deux entités différentes. Tu comprends très bien que l'éternel est Dieu. C'est la même chose. Pourtant, leur expression n'est pas la même. L'expression de Hachem, c'est l'illimité. C'est ce qui transcende la nature. L'expression de Elohim, au contraire, c'est ce qui est limité. C'est le même Dieu.
C'est comme la centrale, le courant qui sort de là-bas et qui sort d'ici.
Donc voilà.
La même force, elle est.
Mais alors comment Dieu peut être limité ?
Ok, bonne question. Très bien. Votre question, c'est la question du roi David. Le roi David, dans le psaume 84, il essaye de répondre à cette question. Il répond à cette question. Visiblement, c'est ça ce qui le dérangeait. Ce qui le dérangeait, c'est finalement qui est Dieu ? Est-ce qu'il y a deux dieux ici ? Ou tu vas me dire que Dieu, il est en haut, et dans ce cas-là, on le bride, mais en bas, c'est plus Dieu, comme le soleil. Le soleil est en haut, tu le brides, en bas, c'est plus le soleil, c'est fini. Ou tu dis, il est partout, alors comment ça marche ? Alors, roi David essaie de répondre à cette question. Il répond pas à 100% à la question, parce qu'encore une fois, le soleil n'est pas un exemple parfait, mais c'est l'exemple le plus complet qu'on ait pu trouver, mais il n'est pas parfait. Prenons dans les mots maintenant, on va essayer de comprendre ce qui veut dire ici. Donc, inactif, qui shemeshumagen Hashem Elokim. Le roi David, dans le psaume 84, il dit que Hashem et Elokim, c'est l'équivalent du soleil et du bouclier. Et il explique. Pirush Magen, c'est quoi le bouclier ? Ou Nartek le Shemesh, donc le bouclier est dans un sens spécifique, que c'est un fourreau pour le soleil. Un fourreau, fourreau comme une arme, hein, qui a besoin d'un fourreau. De la même façon, le soleil a besoin d'être enfermé.
Canalisé.
D'être canalisé. Même plus que ça, non, c'est pas seulement canalisé. Canaliser, c'est qu'on dirige une énergie vers un endroit, vers un certain endroit. Là, c'est pas ça. Là, j'ai du 500 000 volts, il me faut du 220. C'est tout. Et j'ai pas besoin du 300 000 volts. J'utilise jamais 300 000 volts. Donc l'exemple de la centrale n'est pas parfait. Parce que dans l'exemple de la centrale, j'ai besoin de 300 000 volts.
Mais pour transformer.
Comment ça marche, la centrale ? Vous savez comment ça marche, la centrale ? Dans une centrale, tu as la centrale qui va t'envoyer je sais pas combien de centaines de milliers de volts. Ça, c'est la grosse centrale. Après, ça arrive dans les villes. Et dans les villes, c'est un peu moins. Ça va être 100 000 volts. Après, c'est les quartiers. Et dans les quartiers, par exemple, ça va être 10 000, 20 000, 30 000. Et en fait, l'idée, c'est que plus on s'approche de l'appartement, et plus ça diminue. Mais en vérité, ces 300 000 volts étaient nécessaires. Parce que les 300 000 volts vont alimenter toute la ville. Toute la ville et chaque appartement. Là, c'est pas ce que j'ai dit. Là, on te dit d'emblée, cette énergie d'Hachem est bridée. Il faut la brider tout de suite. Parce que si tu la brides pas tout de suite, ça fait tout péter. Donc tu la brides. Je la bride, et du coup, ça donne une énergie. Alors, c'est quoi cette énergie ? On va expliquer tout de suite. Pirush Magen, ou Nartek Lashemesh, c'est un fourreau pour le soleil. Le Hagen, pour protéger. Chez Yuchlu Aberiot, les Sovlo, pour faire en sorte que les créatures puissent endurer ces radiations. Là, pour l'instant, on parle de physique, d'astronomie. D'accord ? Ça veut dire que, à quoi sert ce fourreau du soleil ? C'est une couche atmosphérique qui fait en sorte que les créatures peuvent endurer des radiations. On sait à quel point une radiation qui est négative peut tout faire sauter. Regardez juste qu'avec des radiations, juste avec, par exemple, avec l'atome, des atomes qui ont mal été contrôlés, comment ça peut faire tout sauter ? On a imaginé le soleil. On n'a pas trouvé dans le monde d'énergie plus forte que le soleil. Vous êtes d'accord avec moi ? Il n'y a pas d'énergie plus forte que le soleil. Le soleil, c'est la source d'énergie la plus forte qu'on ait jamais pu faire. Une source d'énergie qui est intarissable.
Oui, c'est la réaction thermonucléaire.
Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on est en train de te dire ? À Kadosh Baruch Hu, il te dit, si je leur envoie le soleil tel quel, ils vont brûler. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie un magen. Il envoie un fourreau, un bouclier pour le protéger. Kemam Marazal, maintenant, par rapport à Kadosh Baruch Hu, comme les Chachamim nous disent, les Atid Lavo, lorsque Machar viendra, à Kadosh Baruch Hu, Motzi Chama Minarteka, à Kadosh Baruch Hu fait sortir le soleil de son fourreau, Rechaim et Donimba, les Rechaim, ils seront jugés avec nous, Serge.
Oui, oui.
Et les Tzadikim seront aussi guéri par ça. Ok.
Alors, ça a rapport avec le Guéhinnom ?
Alors, oui, ça a rapport avec tout, bien sûr. On va essayer maintenant d'analyser. D'accord ? Vous êtes bien réveillé ? C'est pas compliqué. Je vous rassure, c'est pas compliqué. Le chapitre 3 était compliqué. Le chapitre 4 n'était pas compliqué du tout. On va maintenant analyser les deux noms d'Hachem. Les deux noms. On a deux noms ici. Le Shem Yud Ke Vav Ke et le Shem Elohim. Ok ? Deux noms. Deux noms d'Akadosh Baruch Hu. Ok. Alors apparemment, il y a un premier nom qui est très puissant et un deuxième nom qui est moins puissant. Alors, vous savez ce qu'on va faire ? On va analyser maintenant les deux noms un par un. On va commencer par le premier. Le soleil, l'énergie. Yud, ke, vav, ke. Yud, he, vav, he. Comment comprendre ? C'est quoi qu'est-ce qui veut dire ce mot ? On y va. Je suis au milieu de la page. Deshem, avaya, pirojo, shem, mehave, etakol, mehaim, leyesh. Le nom yud, ke, vav, ke. Quelle est l'étymologie du mot Yudke Vavke ? Alors, encore une fois, en français, on traduit Yudke Vavke par l'éternel, mais c'est faux comme traduction. Le mot Hove, c'est quoi Hove ? Hove veut dire existence. Vous avez dans le mot ? Page 48. Page 48.
Ah, d'accord. Allô ? Ah, c'est bon,
vas-y. Page 48, au milieu de la page.
Je suis voyou.
Deshem Avaya.
Ah, d'accord, oui, c'est bon.
Pirusho. Shemehave etakol me'aymeyesh. Que signifie le nom Avaya ? Le nom Avaya signifie Hove en hébreu dans le mot Yud Ke Vavki et le mot Hove. Hové qui veut dire existence. Et Yud, Hové, le Yud en hébreu ici, c'est un préfixe qui veut dire que l'action est présente. Comme par exemple, je dis Kacha Yaase, comme ça il fera. C'est une action constante. Donc Yehova, je le dis, je m'excuse, hein, parce que bon, normalement on a pas le droit de le dire, mais voilà, comme cher Vinan pourra le dire, veut dire celui qui crée constamment. Donc le terme Yud Kei Vav Kei désigne la création, l'existence, celui qui fait exister.
Celui qui est tout le temps en mouvement.
Exactement. Donc ça veut dire que l'origine de tout vient de quel nom? Yud Kei Vav Kei, tout est là. Ah, pourquoi on ne suffit pas de Yud Kei Vav Kei? Pourquoi on ne dit pas Baruch Ata Hashem Melech Haolam? Pourquoi on dit Elokeinu?
Oui.
On revient au même problème. C'est que il est clair que l'énergie divine qui fait vivre le monde, qui fait exister, Hove, ça veut dire exister. Donc Yud Hove, ça veut dire celui qui fait exister. Il est clair que l'énergie divine qui fait exister le monde est une énergie qui est très puissante, et c'est elle qui le fait exister. Mais elle est tellement puissante que si on se suffit de cette énergie, tout brûle.
Alors, Elokeinu, ça veut dire le bouclier.
Voilà.
Le rôle du bouclier.
Elokeinu.
Le filtre.
C'est, si vous voulez, c'est l'étui qu'Hachem, c'est l'habillage.
C'est le fourreau.
C'est plus qu'un fourreau, d'accord? C'est l'habillage qu'Hachem a fait.
Ouais, c'est contradictoire.
Ah, justement. Parce que c'est quoi Elohim? On verra juste après que Elohim, c'est la même valeur numérique que Hateva, que la nature. Quand vous parlez aux gens, vous lui dites, dis-moi, est-ce que tu crois en Dieu? Il dit, non, je crois pas en Dieu. Il y a la nature. Il dit, bah, il y a mère nature. La mère nature. C'est quoi la nature? On maîtrise rien la nature. On a appris là, dans cette semaine, à Gemara. Est-ce qu'une personne peut décider s'il fera beau ou il fera pas beau? Regardez, elle a prévu l'autre, une journée sans voiture dimanche. Qu'est-ce qu'elle a eu de la pluie? Qu'est-ce qu'on fait une journée sans voiture? On doit marcher à pied, non? Et comment tu marches à pied, c'est bleu? Tu maîtrises rien du tout. On maîtrise rien du tout. On maîtrise pas. Selon quoi? Ils vont dire, ah, la nature, je veux bien croire en la nature. La nature, c'est un phénomène que je veux croire. Mais Dieu, je le vois pas, donc je crois pas. On dit, mais je comprends pas. Mais ce phénomène qui s'appelle la nature, c'est quoi? D'où il vient? Ce phénomène que tu appelles nature n'est qu'un habillage d'une énergie divine. Ça veut dire que derrière cette mère nature que tu appelles mère nature, t'as une énergie divine qui est dedans, qui est Yud Kei Vav Kei. Mais si Hachem, il te donne cette énergie directe telle quelle, tu brûles. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il va te l'habiller. Il va faire l'emballage. L'emballage, c'est quoi? C'est que toi, tu vois pas l'énergie divine. Toi, qu'est-ce que tu vois? Tu vois un nuage qui bouge, tu vois la pluie qui tombe, tu vois les tremblements de terre, tu vois la terre qui bouge, tu vois l'univers qui bouge, tu vois tout qui tourne. Tu dis, ah, la nature, la nature, la nature. Mais ce que tu appelles, toi, la nature, n'est qu'un habillage pour l'énergie divine qui est dedans. Exactement comme le soleil. Ça veut dire que j'ai la boule du soleil, et comme le soleil, je peux pas le voir directement parce que je vais brûler, donc du coup, on va me brider cette lumière, et je vais voir une lumière qui sort de ça, qui est la lumière du soleil, mais qui a été bridée pour moi. Qu'est-ce que veut expliquer ici la Mourazakel? Encore une fois, c'est la même idée. Ce n'est pas parce que je ne vois pas la totalité de l'énergie divine qu'elle n'est pas là. Si on ne me montre pas la totalité de l'énergie, c'est uniquement parce que si on me l'a montré, j'exploserai. Donc qu'est-ce qu'il fait? Hachem, il dit, on va te brider. Tes yeux ne vont pas voir grand-chose. Parce que tu ne peux pas voir. Si tu vois, tu vas exploser. Donc qu'est-ce qu'on fait, hein? On va te brider. Tu ne vois pas grand-chose.
Tu vas brûler.
Ouais, mais là, on ne voit rien du tout, là.
Non,
bien sûr
tu vois.
C'est pas, on va la voir.
Bien sûr tu vois. C'est ce que je viens de te dire. Les gens, pour toi c'est quoi un miracle? C'est quoi un miracle, David? Pour toi, c'est pour nous. Tiens. Pour nous un miracle, c'est quoi un miracle? Le miracle, c'est quand, par exemple, le mur il va tomber ou le mur il va s'envoler en l'air. Je dis, mais ça c'est ce que toi tu appelles un miracle. Mais moi je pose une question. Comment le mur tient? Comment le mur il est là? Comment t'as du bois? Chaque chose est un miracle. Seulement quoi? C'est un miracle qui est habillé.
Oui, bon, ça, on le voit.
Ça, non, c'est le mec qui est habillé.
Il est
camouflé, il est habillé.
C'est pas Hachem qui est derrière. Comment il fait voler un truc?
Bien sûr.
Faut arrêter les mecs avec les propulseurs.
Le miracle est camouflé.
Donc, cette énergie.
Il y a Hachem qui est derrière tout ça.
Si cette énergie qu'on voit pas, elle est assimilée, elle est pas par Dieu, elle est assimilée à Dieu, c'est pourquoi il nous dit, si toi, l'homme, tu me vois à moi, Dieu, tu mourras. Donc, avec l'énergie, je meurs.
Exactement, c'est un très bon exemple. C'est pour ça que, lorsque Moshe Rabbeinu a demandé à voir, Hachem lui dit, tu peux pas.
Ah, mais Moshe a pas vu Hachem.
Tu peux pas?
Oui. Le soleil, tu parles fixé, déjà.
C'est pas possible.
Oui, tu vas voir le soleil.
Ça veut dire, avec tout ce que tu vas débrider, et avec ça, Moshe Rabbeinu, il atteint le monde de Hatzilut. C'est-à-dire qu'on a beaucoup, beaucoup débridé, Moshe Rabbeinu. On te dit, avec tout ce que tu vas débrider, tu pourras jamais débrider à 100%. Parce que si tu débrides à 100%, on brûle. Même Moshe, il brûle.
Mais, par contre, on sait que c'est un homme. Dieu est un homme.
Alors maintenant, attendez, on fait que commencer, parce que
dans la Torah,
c'est un homme. Oui, c'est une image.
Il utilise le langage.
Il le dit dans le Torah. Il dit.
C'est un anthropomorphisme.
C'est véritable, vous croyez à ce que vous dites là?
Ben oui, parce que c'est écrit.
Je comprends. C'est un homme qui a créé. Oui, Adam à Elion, l'homme suprême. Mais qui a créé cet homme?
Alors attendez. Il dit Dieu a créé l'homme à son image.
Okay.
Il a créé l'homme et après il a créé la femme. Il a pas dit il a créé l'être humain à son image.
C'est Benita. Dieu
et
est un
la,
homme.
Et la deuxième.
Attendez,
la deuxième.
C'est quoi un homme? C'est quoi un homme?
Bah, ben c'est un
il
homme.
A une tête.
Une tête.
Il a des mains.
Ouais, voilà.
Il est où? Il est où?
Ben, je sais pas. Il a dit qu'il a dessiné dans le sur l'argile.
Non, je parle pas de Adam. Je parle de Dieu. Vous dites que Dieu est un homme.
Oui. Ben oui, parce qu'il dit il a créé l'homme à son image.
À son image.
Il n'a pas dit il a créé l'être humain. À son... C'est après il a créé la femme.
Ok. Rabotaille.
Et la deuxième. La
c'est déjà assez complexe comme ça. Hein. On va pas trop compliquer. D'accord. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.
Ah bon.
Voilà. Parce que hein, bon, Hachem, on a du pain sur la planche. Juste, voilà, juste deux secondes. Juste, je voulais conclure avec ça. Mon objectif dans ce cours, parce que maintenant on parle d'objectif, voilà. On est dans une période d'objectifs. On a des objectifs pour Tivat Hachem, etc., comme vous avez pu suivre. Alors, mon objectif dans ce cours, c'était quoi? De faire passer le message que pour Rosh Hashanah, lorsque nos textes nous disent qu'on est en train de refaire le monde, c'est la réalité. Et même si tu ne vois pas, c'est la réalité. Hachem, Elokeinu. Même si tes yeux ne voient que Elokim, la nature, tu dois savoir que derrière Elokim, il y a Hachem. Derrière le bouclier, il y a un soleil. Alors, un soleil que tu peux voir un petit peu, que tu peux imaginer, que tu peux supposer, tu peux comprendre.
Enfin, on le voit quand même. Ne serait-ce que le rayon,
peu, ouais,
on sait qu'il vient du soleil.
Voilà,
bon, exactement. On le voit.
Voilà.
Alors là, c'est la contradiction.
Donc, c'est pour ça que c'est très important d'avoir une kavana spéciale dans les tefillot de Rosh Hashanah. D'avoir une kavana particulière quand on va écouter le shofar. De savoir que votre avenir se joue maintenant. Notre avenir se joue maintenant. On n'est pas simplement en train de parler de qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on va être jugé ou pas jugé. C'est beaucoup plus qu'un jugement. C'est l'avenir de Dieu lui-même. Et j'ose le mot. La Gemara nous dit que Kadosh Baruch Hu, écoutez bien ce que je vais dire, il arrête d'être le roi du monde, donc le roi de l'univers,
oui,
à l'entrée de Rosh Hashanah. Et chaque année, il attend que les Bnei Israël le couronnent. Et oui, si on le couronne pas,
d'être roi.
Oui, si on le couronne pas, il n'est pas roi. Non mais c'est pas Khazachem, c'est la réalité ce que je dis.
C'est
ce que je suis en train de
dire. Ça serait comme le roi.
Est-ce que tu dis, c'est ce que je suis en train de dire.
Oui.
Le chauffard, c'est le couronnement d'Akadosh Baruch Hu en tant que roi. Là, tu t'imagines, tu vas raconter ça à quelqu'un, tu dis, quelqu'un va dire, qu'est-ce que t'as pris au cours d'aujourd'hui, Tania? Voilà ce que j'ai appris. J'ai appris que quand on va sonner un coup de trompette, on va refaire le monde, et c'est pas seulement qu'on va refaire le monde, Dieu aussi sera refait. Mais j'ai dit, vous êtes fous, quoi.
Ouais.
Ils sont complètement, en barge. C'est la réalité. Tu sonnes le chauffard, tu refais le monde, et tu refais Kaviachol, même Dieu. Dieu, il te dit, je ne peux pas construire ma royauté si vous n'avez pas sonné le chauffard. Lorsque vous sonnez le chauffard, vous me proclamez en tant que roi, là, je suis votre roi. Tant que vous ne m'avez pas déclaré, tant que vous ne m'avez pas proclamé en tant que roi, je ne peux pas être roi.
On est binôme.
Je ne peux pas être roi.
On est binôme. Dieu, alors, on est binôme. On s'en
fout. Voilà. Voilà le message. Rabotaille à méditer.
Le chauffard, oui.
C'est nous? C'est nous? Nous, le peuple. Non, chacun de nous, chacun de nous.
Mais moi, tu es le peuple.
Le chauffard, mais c'est tout la prière, la tefillah, madame.
Ça, dans le cours. Très bonne question. Très, très bonne question. Ça, avec Bezrat Hashem, dans le cours de Shabbat. Si Dieu veut, on développera cette idée. Quelle est la différence entre le son du chauffard et les bénédictions et les versets autour du chauffard? Parce qu'il y a des versets, à chaque fois, il y a des séries de 10 versets. Ça veut dire, qu'est-ce qui opère l'action? Est-ce que c'est le son? C'est un son de trompette? Oh, c'est un son? Ou est-ce que c'est les versets? Ça, c'est une très bonne question. Mais en tout cas, ça se passe à ce moment-là. D'accord? Les détails à suivre.